Grainville PM. La voie est libre.
Évidemment, il y en a qui ont payé moins que 70 000. Il y en a qui ont payé plus que 70 000. C'est pour ça qu'on voudrait savoir s'asseoir avec leurs responsables, des chauffeurs puis des détenteurs de permis de taxi pour négocier une entente qui fait que aucun chauffeur ne se retrouve dans une situation, par exemple, en faillite.
François Legault, donc, qui en appelle au dialogue avec les chauffeurs de taxi. Rebonjour, Luc.
Salut, Bernard.
Juste avant que tu nous livres ton analyse sur ce qui se passe présentement, on va aller rejoindre notre journaliste Denis Couture, qui est toujours dans la rue avec les chauffeurs de taxi. Où est-ce qu'il en reste, Denis?
Oui, est-ce qu'il en reste, Bernard? En effet, parce que le boulevard René Lévesque est maintenant rouvert à la circulation depuis quelques minutes. Finalement, c'est une manifestation qui sera déroulée de façon pacifique. Même si à quelques moments on a brûlé quelques pancartes, il y a eu des discours quand même assez enflammés, mais somme toute, ça s'est passé sans qu'il y ait de débordement. Il y avait beaucoup de grogne, évidemment, chez les chauffeurs de taxi. Plusieurs parlent justement de faillite financière, de faillite personnelle, parce qu'ils ont une dette énorme sur leur hypothèque de permis de taxi qu'ils ont payé des milliers de dollars. Et ils disent que c'est terminé pour aujourd'hui, mais ce n'est pas terminé le combat qu'ils livrent présentement au gouvernement Legault, parce qu'il y aura manifestation lundi. On ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, quelle sera la stratégie des chauffeurs de taxi. Quoi qu'il en soit, on sait que lundi, ils vont reprendre les manifestations, reprendre les moyens de pression. D'accord. Parce qu'ils disent justement qu'ils ne veulent pas que la pression cesse sur le gouvernement Legault tant que leur voix ne sera pas entendue. Là.
Donc, le boulevard René Lévesque est complètement rouvert maintenant, là, ça va?
Oui, rouvert dans les deux sens.
Très bien, merci Denis.
Je vous en prie.
Comment tu réagis, Luc Lavoie, à cette manifestation d'aujourd'hui?
Ben moi, il faut que je te dise que le geste tragique qu'a posé un chauffeur de taxi devant les caméras de la télévision la semaine dernière, ça m'a comme un peu ébranlé.
Ouais.
Quand ça prend des dimensions humaines aussi tragiques, on prend quelques minutes pour y penser au minimum. Hein.
Oui.
Mais je les regarde aller, je regarde la manif qu'ils ont fait à Montréal. Penses-tu que l'opinion publique va aller avec eux autres? C'est ça la vraie question.
Luc, oui. Honnêtement, là, moi, je pense qu'ils ne s'aident pas là, en
c'est suicidaire
la circulation.
Ce qu'ils font,
ils ne s'aident pas. Et là, comme tu sais, hier, il y avait une rencontre qui avait été convoquée et ils ne sont pas présentés. Leur lobbyiste s'est présenté, mais eux ne se sont pas présentés, les chauffeurs, les propriétaires, en fait, de permis. Et actuellement, le problème, c'est qu'ils demandent le retrait du projet de loi et Bonnardel dit non, je ne le retirerai pas, mais je prête par contre à discuter d'argent.
Ouais, puis de modalité, d'argent, puis de modalité.
Mine de rien, là, aujourd'hui, là, si tu lis ces déclarations, ouais. Là, il y a 250 millions sur la table, là, ben, c'est 500 au total, mais il y en a déjà 250 qui ont été distribués. Il y a un autre 250 qui a été rajouté par la CAQ. Et mine de rien, le Bonnardel a rajouté 80 millions aujourd'hui de compensation parce que le fonds de modernisation, là, tu sais, quand on prend Uber, là, il y a un 2 piastres, oh non, enfin, 1,20 piastres qui s'en va dans un fonds. Ben, ce fonds-là, actuellement, il y a 44 millions dedans.
Oui.
Et le gouvernement de la CAQ pense que dans les trois prochaines années, il y a un autre tout près de 40 millions qui va s'ajouter. Donc, Bonnardel a rajouté 80 millions de compensation aux 250 millions qu'il avait annoncé. Là.
Écoute, c'est clair que la colère des chauffeurs de taxi, propriétaires de permis, est très émotive. Je vois pas comment ils vont arriver à baisser le ton. Ils sont très sérieux. Je doute pas de leur sincérité.
Ah, moi non plus.
Ils sont heurtés de plein fouet pas par la loi du gouvernement, par la modernisation d'une industrie qui en avait bien besoin. C'est ça qui les heurte de plein fouet. Et ils ont eu, à travers la série de projets pilotes, puis la drôle de façon dont les libéraux avaient géré ce dossier-là, ils ont eu quand même plusieurs années pour se mettre au moins sur un pied d'égalité en termes technologiques. Mais ils l'ont pas vraiment, ils ont pas vraiment sauté sur l'occasion. Et là, évidemment, cette question de combien ont-ils payé leur permis de taxi,
oui.
Moi, ça me prendrait devant les yeux une étude comptable sérieuse. Parce que, bon, il y a 6500 propriétaires qui possèdent 8100 permis de taxi. Donc, il y en a qui en ont plus qu'un. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut pas être tant que ça, puisqu'il y a 6500 propriétaires de permis pour 8100 permis. Et après ça, cette idée que je suis endetté jusqu'aux oreilles parce que mon permis vaut 200 000 puis vous me donnez rien. Mm-hmm. Écoute, je voudrais voir combien vous l'avez payé, là, celui que vous dites qui vaut 200 000.
Mais c'est de ça dont Bonardel veut discuter.
Ben oui, puis ils veulent pas
parce que ils ont, je les comprends, eux autres, ils disent, le jour où on commence à discuter de compensation, c'est comme si on avait accepté le projet de loi. Ah, oh, ils le refusent, le projet de loi.
Mais c'est bien de valeur, mais je regarde...
C'est un dialogue de sourds, tu comprends? Ouais.
Et moi, j'ai une assez grande confiance dans la capacité politique d'agir de François Bonardel. Je pense que c'est un gars qui a de l'expérience, qui a un ton assez calme, qui a un ministère pas facile, puis il reculera pas. Alors, ces chauffeurs de taxi-là, moi, mon expérience politique, c'est que la seule chose qui ébranle vraiment un politicien, c'est l'opinion publique. Quand il sent qu'il perd le contrôle sur l'opinion publique, le politicien, là il s'assoit puis il dit qu'est-ce que je devrais faire, tu sais?
Pour le moment, je pense pas qu'ils ont perdu l'opinion. Et sérieusement, ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense pas que ça va gagner beaucoup, beaucoup d'appui à la cause des taxis. Mais je vais te dire une chose, par contre. Tu veux pas d'un autre incident, là, d'un autre chauffeur, non. Là, qui... et c'est ça qui... je vais te dire, t'es ministre, là, puis je l'ai été, là. Veux pas, là, ça, tu peux pas rester insensible.
Ben non.
Dans les heures où c'est arrivé, dans les heures qui ont suivi l'incident la semaine passée, Bonardel a réagi très rapidement en disant qu'il était bouleversé. Moi, je ne doute absolument pas de sa sincérité quand il a dit ça, tu comprends? Et donc, c'est ça le danger, là, c'est qu'à travers la tristesse puis la souffrance puis le désespoir que vivent certains, tu sais, malheureusement, on n'est pas à l'abri de gestes comme ceux-là. Et ça...
Mais ils se sont enfermés dans leur propre logique. Tu connais sans doute cette expression qui vient des États-Unis. Ils appellent ça le « group think ». Ça veut dire, tu t'installes, là, c'est des 6500. Disons qu'il y en a 4000 qui sont militants, là, chez ces chauffeurs de taxi, là. Tu t'installes entre toi, puis tu te racontes des histoires, puis tu te crois, puis tu te convaincs, puis tu penses qu'il n'y a pas d'autres avenues. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il faut à un moment donné que tu dises, je vois bien que le ministre pliera pas, je vois bien que les applications mobiles disparaîtront pas. En fait, plus je vais mettre le monde en colère, plus je vais accélérer l'arrivée de d'autres joueurs que Uber. Je sais même pas si peut-être qu'il y en a qui nous entendent. Pensez-y comme il faut là. Moi, je suis très très sensible au cas des chauffeurs de taxi parce que, écoute, j'ai passé une bonne partie de ma vie à voyager et mes premiers contacts avec les endroits où j'allais, c'était les chauffeurs de taxi.
J'avais
toujours ma conversation avec le chauffeur. Moi pareil.
J'allais en reportage à l'étranger. Le premier coup de sonde, d'ailleurs, c'est Jean Chrétien, à un moment donné, qui avait dit quelque chose comme « Si tu veux connaître le pouls d'une population, parle aux chauffeurs de taxi. Ils sont en contact avec le peuple, avec le monde. Ils savent ce qui se passe. » Ben oui. Et c'est pour ça que, non, il y en a beaucoup qui nous écoutent, Luc. Puis la difficulté, puis je t'entends, là, puis moi aussi, je la vis en quelque part, c'est que moi, je continue à les encourager, les chauffeurs de taxi. J'ai pas pris un Uber de mon cru depuis que ça existe. Pas une fois. Bon, parce que j'ai décidé que c'était ça. Tant qu'il n'y aurait pas un traitement que je considère correct. Mais je constate, comme toi, que la technologie est là, puis elle va pas reculer, elle va pas disparaître. Donc, on est pris, toi et moi, quelque part, dans le même dilemme. On veut un traitement humain pour les chauffeurs de taxi, puis en même temps, on sait que Uber est là pour rester. La solution se trouve quelque part entre les deux.
Puis, ils ne méritent pas, les chauffeurs de taxi, qu'on les traite comme s'ils étaient des moins que rien. Non.
Ça
que je veux. Je veux que, moi, le consommateur, et quand un ministre, c'est ce que Bonardel fait, se met du côté des consommateurs, on oublie qu'est-ce que ça veut dire, consommateur. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde est un consommateur. Comprends-tu? Alors, il a pris le côté des consommateurs. Les consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ça? Des voitures plus propres, des voitures plus disponibles, des voitures moins chères, une application extraordinaire, blablabla. Alors, de temps en temps, là, il faut que le consommateur gagne aussi. On peut pas toujours, tu sais... on va passer par-dessus la modernisation parce que tu comprends, nous autres, là, on a notre système. Non, il va falloir qu'ils s'assoient à table, puis ça presse, puis qu'ils soient réalistes. Puis s'ils sont réalistes, puis de bonne volonté, je sens chez Bonardel une volonté d'en donner un peu plus. Il joue bien son jeu d'échecs,
Il a mis 80 millions sur la table aujourd'hui, c'est par rapport à 250, je m'excuse, là, mais il a mis 33% de plus sur la table.
Mais ceux qui disent, parce que j'ai entendu ce chiffre-là hier ou avant-hier, que la totalité des permis de taxi en circulation au Québec, ça représente environ 1,3 milliard de dollars.
Ça, c'était à l'achat.
Si tu les achetais, là, puis si tu les maintenais au prix où ils étaient à leur maximum, là.
Faut s'arrêter parce que faut se garder du temps pour l'autre sujet, sinon les pauses sont trop proches. On s'arrête au retour, on va parler de l'ingérence russe dans la prochaine élection.
Russe ou autre.
Ouais, russe ou autre, dans un instant.
Drainville PM. La voix est libre.
Alors, c'est très intéressant, Luc, cette sortie donc de la ministre canadienne des Affaires étrangères, parce qu'elle a évoqué très ouvertement le risque que les prochaines élections fédérales au mois d'octobre prochain se fassent sous influence étrangère.
Écoute, je vais lire sa citation, là. « Nous sommes très inquiets. Nous estimons que l'ingérence est très probable et nous pensons que des acteurs étrangers mal intentionnés ont déjà probablement déployé des efforts afin de perturber notre démocratie. » C'est Chrystia Freeland, notre ministre des Affaires étrangères, qui disait ça. On est à 7 mois des élections.
Oui.
Et évidemment, on pense à l'élection de Trump, mais ça n'a pas été le seul cas. Hein? Mm-hmm. On s'entend généralement pour dire, enfin, on sait qu'il y a eu une intervention massive sur les réseaux sociaux des services russes pendant le référendum sur le Brexit. On sait qu'ils sont intervenus très, très massivement aussi en Allemagne et en Italie. On sait qu'ils ont développé une espèce de machine, un rouleau compresseur qui prend le contrôle des médias sociaux, qui vient semer la zizanie dans le processus électoral. Et c'est très intéressant de constater que, généralement parlant, la machine russe, à laquelle, et je vais y revenir dans une seconde, il faudra penser également à la machine chinoise, là. Et bien, la machine russe, eux autres, ce qu'ils font, c'est que le grand pays de la Révolution d'octobre 1917, là, ils appuient tout ce qui est d'extrême droite, ils appuient tout ce qui est populiste à la Orban en Hongrie, puis à ce type de leader-là. Alors, et maintenant, il y a le cas de la Chine. La Chine est technologiquement au moins, même beaucoup plus avancée que la Russie.
Mais dis-nous, Luc, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi le risque? Parce que moi, je vais te dire, dans la déclaration de Freeland, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est cette déclaration. Écoutez bien ça. Elle dit, c'est pas tellement qu'ils cherchent à obtenir un résultat particulier lors d'une élection. L'objectif, c'est plutôt de rendre nos sociétés plus polarisées, nous rendre en tant que citoyens plus cyniques face à l'idée même de la démocratie, face à l'idée que la démocratie puisse exister et fonctionner. Ça, je trouve ça brillant comme déclaration parce que c'est tout à fait vrai. Les Russes, mettons que ce soit les Russes ou les Chinois, dans le fond, c'est pas, ils veulent pas l'élection de Scheer, le conservateur, ou de tel autre.
Ils veulent semer de la merde.
Oui, ils veulent discréditer l'idée même de la démocratie. Ils veulent qu'on cesse de faire confiance à notre système.
Puis ils veulent des sociétés ultra polarisées. Puis on voit ce que ça donne aux États-Unis. Ça les rend agressifs. Ça leur fait perdre ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'envie de les admirer parce que c'est un pays exemplaire à bien des égards. Non, soudainement, les sociétés deviennent des sociétés où ça tout s'entrechoque.
Ça revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Quand tu me disais, Bernard, le mouvement anti-vaccination, ça vient d'où? Ben, tu sais, quand tu crois plus en rien, quand tu doutes de tout, quand tu deviens cynique, quand tu penses que c'est des forces occultes qui nous mènent, ben, ceux qui croient pas dans la démocratie et qui ne sont pas des démocrates comme Poutine, comme les dirigeants communistes chinois, ben, sais-tu quoi? Ils applaudissent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Foutre le bordel,
mon vieux. Oui, complètement. Et moi, tout à l'heure, j'ai vécu une expérience personnelle, rien de bébé dangereux, là, mais il y a quelqu'un qui m'a reconnu, parce qu'on me voit parfois à la binette, hein. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, un homme, je dirais, d'à peu près 50 ans, bien mis, avec une barbe, là, mais très, là, quelqu'un qui se présentait bien. Il me dit, vous êtes Luc Lavoie? Il dit, vous savez, là, l'axe du mal, là, ça implique, là, Couillard, puis Charest, puis je sais plus, il m'en a nommé d'autres, là. Il dit, vous savez, c'est George W. Bush qui l'avait identifié. Puis là, cet axe du mal continue à faire le mal derrière les rideaux. Moi, je te dis ça complètement. Puis là, je dis, vous parlez de quoi? Il dit, vous le savez pas. Ça m'étonne de la part d'un journaliste. Là, je te dis ça. Mais c'est ce genre de commentaire. J'entendais pas ça avant, Bernard. Entendais-tu ça avant, ça?
Mais non.
Et c'est quoi cette affaire, là, l'axe du mal? C'est vrai, tu te souviens d'un discours de George W. Bush sur l'état de la nation où il avait parlé Axis of Evil, là, mais ça n'avait rien à voir avec ce que ce gars-là disait.
Il parlait de l'Iran, de la Corée, de l'Irak.
C'est ça, les pays, là, qui... Bon. anti-américain. Il avait appelé ça l'axe du mal, puis on lui a abondamment reproché. Mais l'interprétation que cet individu en faisait, là, qui était... J'en venais pas, t'écoutes ça, tu sais pas quoi répondre à ça, là. Ils font partie de l'axe du mal, puis s'il y a personne... Comment il m'a ajouté ça? S'il y a personne qui veut s'en occuper, je vais m'en occuper personnellement.
Pardon?
Oui, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire devant ça? Je sais pas, c'est quoi cette folie-là? Mais des folies comme ça, on en entend de plus en plus, et on revient à l'interventionnisme russe ou chinois ou étranger qui utilise des canaux qui ont été créés,
ils exploitent
une faiblesse. Non?
Et voilà.
Et puis ils rentrent dedans, puis ils se sont pratiqués bien comme il faut, puis ils savent exactement ce qu'ils font.
Ils sont devenus très bons, hein?
Ils sont devenus extraordinaires.
Ils exploitent l'insécurité.
Ah oui, puis ils ont compris pas mal tous les boutons sur lesquels il faut peser. Puis ils sont morts de rire. Puis Poutine en particulier a rarement eu autant de plaisir de sa vie. Il a réussi à se créer en jouant ce jeu-là une espèce de situation incontournable. Tu sais, Poutine, on a dit, tu parles, c'est un écœurant, mais on peut pas y parler.
On peut pas comme l'ignorer.
Hein, oui.
Ça lui donne un rapport de force sur les affaires internationales qui est incommensurable par rapport à leur poids réel dans l'économie internationale.
Effectivement. T'sais? Ben, ils sont beaucoup moins importants dans l'économie internationale qu'un pays comme la Chine ou comme l'Inde ou même comme le Brésil.
Mais leur capacité de nuisance, elle est très grande.
Elle est extrêmement grande et elle correspond aussi à un trait de personnalité des Russes remontant jusqu'au Moyen-Âge, une vision expansionniste de leur univers. Ils ont toujours rêvé à un empire un petit peu plus grand. L'empire, il s'est effondré à cause de l'effondrement du communisme, mais ils sont en train de le refaire tranquillement. L'Ukraine, ils sont en train de mettre de plus en plus la main dessus. Puis ils s'amusent. Ils ont un plaisir fou. Ils sont dans le Moyen-Orient. Ils se sont alliés avec l'Iran, puis avec la Chine, puis avec la Syrie. Puis...
Ils s'amusent à nos dépens, mon ami.
Ils s'amusent à nos dépens. Fait que soyez... S'il y a une chose qu'on peut dire à nos auditeurs, là, on s'en va vers des élections. Soyez vigilants.
J'allais dire vigilants.
Faites attention aux bébelles que vous pouvez lire parfois. Là. C'est pas, le monde n'est pas venu si fou que ça. Là.
Merci Luc, je te souhaite un bon week-end.
Bon week-end.
On s'arrête et les mythes et complots au retour dans un instant.